France Musique.
Aujourd'hui même sortent les variations Goldberg selon Lang-Lang. On en reparlera un jour prochain dans cette émission. Ça m'a donné envie d'aller vers une légende des Goldberg. Oh, le mythe d'entre les légendes des mythes. Je ne sais pas ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Glenn Gould, en 1982. Les variations 16 à 18 des Goldberg de Jean-Sébastien Bach par Glenn Gould, capté en avril-mai 1981. Le disque était sorti chez CBS l'année suivante, en stéréo, faut-il bien dire, puisque Glenn Gould avait enregistré déjà les Goldberg bien longtemps auparavant en mono. Dans l'intervalle, il y avait eu aussi des lives, mais enfin, il y avait déjà un enregistrement studio. Alors pourquoi y revenir? Parce que sa conception avait changé, parce que la technique avait évolué, puis parce que tout simplement, Glenn Gould était un perfectionniste absolu, et on peut dire que ces Goldberg de 1981 sont le sommet de cette conception très perfectionniste de la musique qui avait finalement poussé Glenn Gould à laisser de côté les planches, les salles de concert, pour se concentrer sur le studio. Le studio, justement, pour cette version-là, je vous le disais, entre plusieurs semaines de 1981, il y avait eu 6 séances, qui étaient d'ailleurs filmées par les caméras de Bruno Mont-Saint-Jean, et on voit cette chose étonnante. Glenn Gould, à la fois d'une exigence de gouffre, reprenant pour des petits détails qui ne semblent, en tout cas pour nous extérieurement ne vouloir rien dire. Et à la fois, on se dit, c'est une forme de névrose d'être comme ça perfectionniste. Ça doit donner un type complètement fou, hystérique. Eh ben non, ça donne des séances d'enregistrement qui sont bon enfant, drôles parfois, avec beaucoup d'humour. On sait quand même que Glenn Gould se contentait pas de jouer de temps en temps, la nuit, pendant que les techniciens étaient partis, et retournait vers les bandes, y retoucher en secret tout le monde. Une espèce de fou, oui, mais à la fois drôle, génial, et puis comprenant bien sûr Bach comme personne, avec ce mélange de rigueur absolue et de fantaisie totale.
Thank you.
6 variations extraites des Goldberg de Jean-Sébastien Bach, pas Glenn Gould, deuxième version studio, celle en stéréo, enregistrée en 1981. La première version dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui était en mono en 55, lui avait apporté une célébrité soudaine lorsque celle-ci de 1982 est parue. Certains ont dit une identification totale entre le pianiste et cette œuvre, qu'on a appelée d'ailleurs les variations Goldberg. Certains ont fait ça. Mais pourtant, le pianiste canadien était assez sceptique à l'égard de ce cycle incroyable. Il avait même déclaré à son sujet « Je ne pense pas que les Goldberg fonctionnent vraiment ni comme œuvre, ni comme concept. » Il n'y croyait pas. Et pourtant, il y est revenu plus d'une fois. Alors, il faut dire que ce disque-là, celui qu'on écoute aujourd'hui, à peine paru, il est rentré dans la légende pour deux raisons. D'abord, une bonne, je dirais, la couverture qui était incroyable. Très belle photo de Glenn Gould, tout en noir, posant, l'air un peu fermé, vaguement dubitatif. Il avait une gueule, quand même, faut le dire. Et cette couverture de disque, c'est un des plus célèbres qui nous reste de la discographie classique, tout confondu. Et puis surtout, alors ça c'était plus triste, le 4 octobre 1982, Glenn Gould décédé quelques jours seulement après la sortie officielle de ses Goldberg. Du coup, sur sa pierre tombale, on grava les premières notes de l'aria, cet air qui sert de thème et de conclusion au Goldberg. Bienvenue dans l'éternité, semble nous dire cette reprise de l'aria, thème des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, joué ici, chanté aussi par Glenn Gould pour sa deuxième version des variations célèbres. C'était pour aujourd'hui notre disque de légende à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
On va poursuivre avec une symphonie mal aimée d'Antonin Dvorak, sa cinquième qu'il a écrite en 4 semaines à peine, en 1875. Mal aimée, on ne sait pas trop pourquoi. On l'appelle pastorale, on dit qu'elle est parfois un peu faible. Lui, il l'adorait absolument, il l'a dirigée très souvent pour la faire admettre, ça n'a jamais marché. Comprends pas. T'es pourtant bien.
Thank you.
István Kertész à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres dans ce petit scherzo fort réjouissant, ma foi, de la 5e symphonie d'Antonin Dvorak. Attention à ce qui suit, c'est l'Armide de Lully comme vous ne l'avez jamais entendu. Alors, s'il y en a parmi vous qui vont me dire, j'ai jamais entendu de toute façon l'Armide de Lully et peu manchot. Oui, bah, enfin, pour ceux qui connaissent l'Armide de Lully, vous allez être surpris. L'ouverture d'Armide de Lully, donnée par Hervé Niquet et toutes ses troupes du concert spirituel, c'est un disque tout nouveau qui nous arrive. Alors ceux qui connaissent un peu sont en train de tiquer et me disent « mais non, ça ressemble pas du tout à l'Armide de Lully ». Non, de quoi s'agit-il ? Alors je vous explique parce que c'est quand même absolument passionnant. Armide, c'est le dernier grand chef-d'œuvre de Lully avec Philippe Quinault, son librettiste. C'est 1686, grand succès à l'époque. L'œuvre reste au programme de l'Académie royale de musique et à l'affiche pendant un peu plus d'un demi-siècle. Et puis on l'oublie un peu. Arrive, donc un siècle après la création, l'année 1778, vient d'être donnée l'Armide de Gluck. Il y a une grande querelle qui se déroule à cette époque-là. Les partisans de l'ancienne manière se disent « il faut ressortir l'Armide originelle, celle de notre Lully nationale ». Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va ressortir cette Armide, oui, mais on demande tout cela à un compositeur, Louis-Joseph Francœur, qui va se faire aider de son oncle, François Francœur, le grand musicien de la cour de Louis XV. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils réécrivent totalement l'Armide de Lully. Ils gardent, j'allais dire évidemment, mais il n'y a rien d'évident là-dedans, ils gardent les récitatifs. Mais comme on n'a plus de clavecin à l'Académie royale de musique, eh ben on remplace par de l'orchestre. Et tout ce qui est danse, ouverture et tout ça, c'est les Francœur qui font totalement autre chose. Et on donne ça comme l'Armide de Lully, alors qu'en réalité, c'est plus une œuvre des Francœur. Et là où c'est passionnant, c'est qu'à une époque comme la nôtre, où on respecte l'œuvre des compositeurs à la note près, où on va chercher le moindre traité pour savoir comment la fabriquer, cette note, à l'époque, ils s'embêtent pas, ils prennent ce qu'ils veulent dans l'Armide de Lully, ils cousent autour, ils rajoutent, ils rhabillent, ils font du patchwork. Et puis après tout, c'est très bien comme ça.
Thank you.
voilà comment, dans la colère de la magicienne et les tonnerres, s'achève Armide de Lully et des Francœurs. Je dis bien Armide 1778, opéra, enfin tragédie lyrique, vient de graver Hervé Niquet avec le concert spirituel. La voix qu'on entendait ici en Armide était celle de Véronique Gens. Je signale qu'il y a beaucoup de très beaux chanteurs dans cette distribution. Reinoud van Michelen, Tassis Christoyanis, Chantal Santangéfry sont aussi là. C'est une nouveauté et c'est chez Alpha.
Relax. Lionel Esparza, France Musique.
Thank you.
Un extrait du grand duo concertant pour clarinette et piano de Karl Maria von Weber. C'était joué par Denis Koussoukin au piano. À la clarinette, on avait ici Jörg Widmann, qu'il faut présenter. Il n'est pas connu de tout le monde. Clarinettiste donc, mais il est aussi chef d'orchestre et également compositeur. C'est une multicasquette et de très, très grand talent, très impressionnant, paraît-il. Les musiciens vous en parlent souvent. Si vous causez, par exemple, de Jörg Widmann à Antoine Tamestit, qui a créé son concerto pour alto, eh ben, il vous en parle pendant des heures, en vous disant que c'est simplement l'un des plus grands musiciens qu'il ait jamais croisé, et dans la bouche de Tamestit, ce qui est vraiment pas quelqu'un à se laisser impressionner, ça veut vraiment dire quelque chose. Bref, Jörg Widmann s'intéresse, et ça c'est assez étonnant, à l'œuvre pour clarinette de Karl Maria von Weber. C'est parce qu'il est clarinettiste, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'on sent chez Weber aussi un travail sur la plasticité des genres et puis les équilibres entre un soliste et un ensemble qui sont complètement perturbés dans ses œuvres concertantes. Un duo devient en fait un concerto, un quintet devient une chose bizarre pour un seul instrument quasiment. On va le découvrir justement dans ce quintet opus 34 de Karl Maria von Weber que Jörg Widmann a choisi d'enregistrer ici dans une version pour orchestre de chambre avec au cœur de cette œuvre un adagio proprement abyssal.
Thank you.
Jörg Widmann était à la clarinette et à la direction face à l'orchestre de chambre irlandais dans cette fantaisie adagio extrait du quintet pour clarinette opus 34 de Karl Maria von Weber. On va fermer cette émission avec un album un peu bizarre, un peu fourre-tout, mais pour une artiste par ailleurs absolument merveilleuse, c'est l'une des plus grandes violonistes d'aujourd'hui, Liza Batiashvili, avec ce titre, Les Lumières de la Ville, City Lights dans le titre. C'est un hommage à Charlie Chaplin, bien sûr, mais surtout à toutes les grandes capitales qu'elle a pu traverser dans sa vie, une sorte de tour du monde imaginaire qui passe par New York, Vienne, Rome. Ici, on va avoir successivement Munich, grâce à Jean-Sébastien Bach, et puis Bucarest, grâce à l'Alouette.
Thank you.
Successivement le fameux choral de Jean-Sébastien Bach, Ich rufe zu dir, et puis à l'instant ce traditionnel roumain Ciocarli, c'est-à-dire l'Alouette, tout ça interprété par Liza Batiashvili avec l'Orchestre Philharmonique de Géorgie sur son dernier disque. Liza, il est paru chez Deutsche Grammophon. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Maïwenn Lejehan. Bonjour Élie Moreau.
Bonjour Lionel.
Vous avez fait sécher vos chaussettes avant de venir, non?
Exactement, exactement. Voilà, je l'attendais un petit peu, celle-là.
Sous une forme ou une autre, hein.
C'était celle-là, voilà.
Il faut dire à nos auditeurs quand même, parce qu'ils ne vont pas comprendre ça.
Ils vont comprendre, vous pensez?
Non, moi j'ai déjà pas compris.
C'est une émission 100% Beethoven. On va écouter des pièces, et elles sont nombreuses, des pièces qui sont dédiées à l'archiduc Rodolphe.
Voilà.
On vous retrouve demain à 15h.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.